L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et avec Thierry Pêche, directeur général de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser à la primaire à droite, après le discours de Nicolas Sarkozy à Saint-André-les-Lille. François Fillon et Hervé Mariton ont saisi mercredi dernier la haute autorité de la primaire sur le cas de Nicolas Sarkozy, accusé par ses rivaux de porter la double casquette de président des Républicains et de candidat à la primaire de la droite, alors même qu'il ne s'est pas encore déclaré. Si Nicolas Sarkozy ne s'est pas prononcé officiellement, son site appelle au parrainage depuis mercredi soir. Sans pointer explicitement l'ancien chef de l'État, l'instance a recommandé jeudi au candidat, je cite, de distinguer aussi clairement que possible l'action qu'il mène dans le cadre du parti de celle qu'il mène dans le cadre de cette candidature. Fin de citation. Le 8 juin dernier, le président des Républicains a prononcé un discours à Saint-André-les-Lille dans lequel il a défendu sa conception de la nation et s'est opposé au communautarisme et, je cite, à la tyrannie des minorités. Il a par ailleurs mis l'accent sur la thématique de l'autorité au sens large, qui comprend selon lui la sécurité, l'immigration et l'identité nationale. Il a aussi parlé d'économie, tout en jugeant que l'enjeu de 2017 portera, je cite, plus sur le premier thème que sur le second. L'ancien chef de l'État a parlé de la France comme d'un pays chrétien dans sa culture et dans ses mœurs, un pays ouvert, accueillant, tolérant, un pays que doivent respecter ceux qui veulent y vivre. Les thèmes évoqués par les candidats se déplacent vers le discours identitaire et les études d'opinion remarquent un raidissement de l'électorat de droite sur ce sujet. Le 26 avril dernier, un sondage réalisé par Ipsos montrait que 73% des sympathisants Les Républicains estimaient, je cite, que l'on ne se sent plus chez soi comme avant. Selon l'un de ses proches, Nicolas Sarkozy estimerait que la France n'a jamais été autant à droite et a un besoin d'expression de valeurs de droite fortes. François Fillon, qui avait fait des réformes économiques la priorité de sa campagne, a clôturé son meeting du 7 juin dernier par une ode à la France fière de son identité. Le slogan de campagne d'Alain Juppé est « L'identité heureuse », basé sur le respect de notre diversité et l'affirmation de notre unité, tandis que Bruno Le Maire préfère parler de son combat pour la culture française. Nathalie Kosciusko-Morizet s'est inquiétée d'une définition d'une identité française figée. Jean-François Copé a proposé de rendre obligatoire le lever du drapeau et la Marseillaise dans les écoles, tandis que Nadine Morano a défendu l'idée d'une constitutionnalisation de la notion de racine chrétienne. La campagne pour les primaires de la droite et du centre sera officiellement lancée le 21 septembre, jour où la liste définitive des candidats sera révélée, alors qu'ils sont déjà 13 à s'être déclarés, après qu'Henri Guénot s'est engagé en début de semaine. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que les candidats de droite sont en train de découvrir la réalité de la politique française. C'est l'avantage des primaires, c'est qu'on s'en rend compte un petit peu avant l'élection officielle et que donc on est en mesure de réagir. Disons que là, ce qui caractérisait la plupart des candidats jusqu'à présent, c'était l'insistance sur le libéralisme économique. Pas d'ailleurs de façon aussi caricaturale que la droite veut bien le présenter. À nulle part, parmi les candidats, il n'y a une véritable remise en cause du socle de protection sociale. Mais il y a effectivement un certain nombre d'inflexions plus ou moins habiles. Et là, je pense que la droite est quand même cueillie à froid par les réactions occasionnées par la loi El Khomri. Alors, bien entendu, le gouvernement et la majorité ont fait toutes les erreurs, sans en oublier aucune depuis le début sur la loi El Khomri, ne ciblant pas bien les priorités, multipliant les moulinets, puis les reculades, puis tout un ensemble de choses qui fait que agissant en fin de quinquennat, ce qui a provoqué la réaction que l'on a vue. Mais malgré tout, au-delà de ça, c'est une interrogation qui vise, je crois, tous les candidats. C'est une interpellation pour tous les candidats de la droite, notamment pour pour Fillon, pour un peu pour Sarkozy, un peu pour Juppé, enfin surtout pour Fillon et pour Le Maire, qui étaient peut-être les plus ardents sur la voie du libéralisme. Et là, on découvre qu'il faut quand même être assez modéré là-dessus. La droite s'est illusionnée profondément sur l'idée qu'il suffisait d'annoncer des réformes, de faire des réformes en début de quinquennat et de les annoncer pour que ça passe. En réalité, on voit bien que les résistances de la société française sont beaucoup plus profondes et que c'est pas parce que vous annoncez des choses avant que vous pourrez les faire après. D'abord parce que ce que vous annoncez n'est pas très bon. En général, il faut quand même être au pouvoir avec l'administration pour voir ce qui passe, ce qui passe pas, pour faire dans la nuance, pour éviter un certain nombre d'approximations douteuses. Donc déjà, vous n'avez pas trop intérêt à être trop précis avant. Deuxièmement, c'est pas parce que vous dites les choses d'abord vous pouvez pas prévoir ce qui se passera pendant 5 ans. Regardez Sarkozy, il a son quinquennat a été dominé par la crise qui n'était pas prévisible au moment de la campagne. Ensuite, les gens ne comprennent pas exactement ce qu'on leur propose et au moment où on leur propose, et ils ne sont sensibles aux effets de la politique que vous préconisez que quand ils en ressentent concrètement les premières manifestations. Regardez par exemple la réforme sur les retraites du temps de Sarkozy. Tout le monde était d'accord dans les premières semaines et le consensus s'est fortement effrité. Il a fallu une grande résistance politique du gouvernement pour faire passer cette réforme qui, je crois, a été très, très utile. Donc Monsieur Soubille répétait l'autre jour, et je crois qu'il avait raison, notamment en discutant avec vous, Thierry, mais il l'a répété depuis. Je crois qu'il avait raison de dire qu'il y avait une illusion. Deuxièmement, il y a l'illusion fondamentale selon laquelle la France est un pays potentiellement libéral économiquement, et notamment la droite. Il faut quand même voir que le Front National s'est construit avec des voix qui viennent de la gauche et des voix qui viennent de la droite, mais a construit un imposant socle électoral de près d'un quart environ, un peu plus d'un quart même du corps électoral, qui est à peu près le score que faisait le Parti communiste à la bonne époque, entre guillemets, sur des valeurs fondamentalement antilibérales. Alors, tout ce monde est un peu cueilli à froid par cela, et... En contrepartie, on a l'émergence, l'apparition brutale de tous les enjeux de sécurité, évidemment à la suite des attentats du Bataclan, à la suite des attentats récents, à la suite de l'affaire d'Orlando, et donc une réaffirmation du thème sécuritaire. Et ça conduit évidemment un homme comme Sarkozy, qui n'a jamais été libéral. Sarkozy n'a jamais été libéral. Les gens disent en 2007, il a fait une campagne libérale. C'est pas du tout. Moi, je me rappelle ce que disait Henri Guénaud en janvier 2007, c'est-à-dire quelques mois avant la campagne. Il disait, c'est dans la poche pour Sarkozy parce qu'il a renoncé au libéralisme. Et c'est tout à fait juste. Sa campagne, son grand discours de Versailles ne sont pas libéraux. Ce sont des prises de position productivistes. On pourrait dire stakhanovistes de droite, c'est-à-dire il faut produire, il faut travailler plus pour gagner plus, etc. Mais c'était pas libéral. Et là, il revient. Et en revanche, le thème sécuritaire, le thème identitaire est très fort. Alors ce qui est très gênant, c'est évidemment important pour Sarkozy, qui a pas mal de ressources par ailleurs. Alors comme vous le disiez, il est chef du parti. Alors, on a beau critiquer, de toute manière, il bénéficie de sa qualité de chef de parti. On peut faire des arguties juridiques justifiées d'ailleurs, mais ça ne change rien au fait qu'il est celui qui parle au nom du principal parti d'opposition. Donc il a cet avantage. Il a une thématique, il a des ressources, il a des ressources intellectuelles et rhétoriques qui sont assez fortes, et il a une rhétorique, des thèmes qui sont assez adaptés. Malheureusement, pour lui et pour nous, il y a deux choses qui me paraissent quand même très graves. Pas seulement pour lui, hélas. Il y a deux choses qui me paraissent très graves. D'une part, je crois que ça lui permet d'attirer des voix du Front National. Et aux primaires, je crois, on dit toujours, est-ce que les gens de gauche vont voter pour Juppé? Je crois qu'ils vont être très limités, les gens de gauche, à voter pour Juppé, même si Hollande est disqualifié, parce que c'est pas naturel. En revanche, les gens d'extrême droite, aux primaires, qui seront tentés de voter pour Sarkozy, et pas par machiavélisme, simplement parce qu'ils trouvent que celui-ci a de l'autorité, etc., ça va être assez nombreux, donc ils se tournent vers un électorat qui votera peut-être Le Pen à la présidentielle, mais qui peut être tenté de voter un peu Sarkozy aux primaires. Et donc ça, c'est un un avantage pour lui. L'inconvénient, c'est que quand vous êtes sur le thème sécuritaire, vous êtes sur un thème nul. Parce que il y a un enjeu de sécurité très important, mais il n'y a pas de débat idéologique, sauf si vous voulez remettre en cause la démocratie. En vérité, il faut un système policier qui marche mieux, un système judiciaire qui marche mieux, un système de contrôle aux frontières qui marche mieux. C'est un art d'exécution que la sécurité, ça n'est pas un enjeu. Donc on peut faire des moulinets, ça séduit les gens, mais on reste dans l'incertitude idéologique fondamentale de ce pays qui reste déboussolé.
Thierry Pêche.
Alors moi, je ne crois pas, contrairement à Jean-Louis, qu'il faille renoncer à être clair dans les campagnes sur ce qu'on a envie de faire. Si on...
Non. Oh là là, bon. Il ne fallait pas être précis.
Il ne fallait pas être précis, voilà. Moi, je crois au contraire. Je crois au contraire qu'il faut être précis, sans pour autant s'illusionner sur les capacités qu'on aura ensuite à exécuter les choses. C'est-à-dire que souvent, dans les campagnes, la volonté tient lieu de pensée, et puis dans l'exécution, on est obligé, bien sûr, de discuter. La société discute elle-même, elle est divisée, elle est parfois même antagonisée. Bon, donc je crois qu'il faut être clair, précis, comme on l'est dans d'autres pays, comme on l'est en Allemagne. Je crois que Michaela pourrait témoigner du fait qu'il y a des débats programmatiques plus affûtés dans les campagnes. D'accord. Mais donc ça me paraît important. Alors pourquoi est-ce que la thématique économique a tout à coup reculé dans l'expression des candidats à la primaire de droite? Pas simplement de Sarkozy, d'ailleurs, parce que quelques jours avant, Fillon arrondissait les angles sur son programme libéral. Bon, je crois qu'elle recule pour deux raisons. La première, c'est qu'elle fait peu de différence entre les candidats. Quand on regarde les programmes, ils se ressemblent beaucoup. Il y a des nuances, naturellement, mais je veux dire, ils se ressemblent beaucoup. Parce qu'il y a des programmes, ils ont fait des livres, ils ont été assez précis pour certains d'entre eux, notamment Fillon, Juppé, qui continue d'ailleurs à publier des bouquins. Donc premièrement, ça fait peu de différence et donc peu discriminant. Et dans une élection, il faut pouvoir se différencier. Bon. Deuxièmement, les chiffres économiques, les chiffres de la conjoncture économique sont bons, et même meilleur que prévu. Et on peut anticiper, c'est du moins ce que suggèrent la plupart des conjoncturistes, qu'ils vont continuer à être relativement bons. Et donc c'est pas forcément le meilleur terrain pour la droite que de se situer sur les questions du chômage, enfin de mettre l'accent profondément sur ces thématiques-là. Alors évidemment, Sarkozy a très vite compris que c'était, un, son intérêt, deux, un terrain privilégié, que d'aller sur les thématiques de l'identité, de la sécurité, de l'autorité, hein, pour faire court. Et donc il tape sur le communautarisme, il affirme, ce qui a toujours été sa pente, hein, d'ailleurs, que la France est un pays chrétien, au risque de déchirer ce qui nous sert de traité de paix intérieure, c'est-à-dire une laïcité inspirée de l'esprit de 1905, qui est bien sûr un engagement de neutralité des agents de l'État face aux faits religieux, mais aussi la responsabilité assumée par l'État de garantir la liberté des cultes et de tous les cultes. Bon, donc il y a là quelque chose qui est pas nouveau chez Sarkozy, mais qui est tout aussi dangereux qu'autrefois. Bon, moi, si vous voulez, j'ai un problème avec ce type de discours, c'est que la guerre au multiculturalisme est quelque chose de surprenant, parce que le multiculturalisme, c'est deux choses. C'est un fait et c'est une idéologie. En tant que fait, le multiculturalisme français est incontestable. La société est multiculturelle. Il y a des chrétiens, parmi les chrétiens il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des orthodoxes, il y a des musulmans, il y a des juifs, parmi les musulmans il y a des... etc. etc. Puis il y a aussi des libres penseurs, il y a des athées, il y a des agnostiques. Bon. Et c'est comme ça. Et puis il y a des gens qui viennent d'ailleurs, il y a des gens qui sont nés ici, il y a des gens dont les grands-parents sont nés ailleurs, c'est mon cas, et c'est sans doute celui de quelques-uns autour de cette table aussi. Bon, ça, la France est multiculturelle, c'est un fait. Maintenant, le multiculturalisme, c'est aussi une idéologie. Mais qui la porte aujourd'hui, cette idéologie, en France? Très peu de monde, en réalité. À droite, personne. Et à gauche, vraiment plus grand monde.
Oui, c'est bon. Comme l'ultralibéralisme, en somme.
Mais voilà, c'est un ensemble vide, en réalité. Alors, il y a des gens qui adorent cet adversaire et qui aimeraient qu'il s'incarne à un moment pour enfin avoir une légitimité à dire « guerre au multiculturalisme ». Mais en réalité, c'est un moulin comme dans Don Quichotte, si vous voulez. Bon, donc ça c'est un point. Il n'empêche que cette idée et cette espèce de débat théologique met le feu à l'espace public. Alain Juppé est en train d'en faire les frais, qui est ciblé par la fachosphère, et pour l'avoir été moi-même, je vous assure que c'est un sale moment, et lui il le vit au centuple. Bon, on l'appelle Ali Juppé. Bon. voilà, Sarkozy vient de renverser un tonneau de bile sur la scène publique, et il a envoyé un signal à ceux qu'un philosophe hongrois appelait ces gens qui ont pris une chambre à l'hôtel du bord de l'abîme. Eh bien, j'espère qu'il ne gagnera pas.
Michaela Vigel.
Oui, alors je pense que ça vaut le coup de s'arrêter un moment avant de parler du contenu à la méthode. Et effectivement, je trouve, on découvre un peu chaque jour comment cette primaire, qui est une première à droite, est aussi réalisé sans des règles très fixes. On le voit dans ce débat sur la double casquette entre le président du parti et le soi-disant candidat, parce que il faut quand même dire, quand François Baroin dit il rejoint Sarkozy, et toute la presse dit voilà, c'est le premier grand soutien officiel du candidat Sarkozy, plus personne ne croit qu'il sera pas candidat. Et donc, en revanche, il n'y a aucune règle claire, et on le voit dans la vie un peu bizarre où on rappelle à la responsabilité à Nicolas Sarkozy, mais il n'y a aucune sanction directe, c'est-à-dire, voilà, à partir du moment où vous avez des tels parrainages, des tels soutiens, vous êtes dans l'obligation de suspendre votre rôle comme président du parti. Et c'est encore plus grave, si c'est vrai ce que Le Point a révélé, concernant le budget du parti. Parce que, selon Le Point, le budget de, soi-disant, l'action politique du parti a été multiplié par 5 pour 2016. Et il était de 1,44 million en 2015 et sans budgéter pour cette année 6 millions. Alors on peut facilement imaginer que ces 6 millions pour l'action politique, en plus le terme il est joli, il n'y a pas d'un coup des besoins énormes qui à part effectivement des déplacements qui s'en servent dans la campagne des primaires. Et là encore une fois, il n'y a aucune règle, aucune méthode stricte, à part cette autorité, mais qu'on a vu déjà très malmenée sur la question du vote des militants à l'étranger, où Sarkozy d'office et en absence de ses principaux opposants avait fait voter que voilà, ils n'avaient pas le droit au vote électronique, sachant pertinemment bien qu'il lui était pas forcément très favorable. Et donc, on voit que ce parti souffre quand même d'une absence de règles très claires et strictes pour le bon déroulement des primaires. Alors, sur le plan européen, l'effet est quand même assez néfaste aussi, parce que on a quand même peu ou prou commencé à avoir des partis, comment dire, sœurs ou frères. Au moins des partis qui, au niveau européen, s'échangeaient, essayaient de travailler ensemble, d'avoir alors, il faut dire, aujourd'hui, c'est au point mort, je parle que pour le pays que je connais, c'est-à-dire entre la CDU-CSU et le Parti républicain en France, puisque on ne sait plus à qui s'adresser, parce qu'on ne veut privilégier personne. On voit très bien que Nicolas Sarkozy ne représente pas tout le parti. Et donc, la chancelière, dans sa grande sagesse, a décidé qu'elle ne parlera plus avec personne. Et donc, personne n'est invité à Berlin. Mais c'est dommage quand même, puisqu'il y a quand même des décisions très importantes à prendre. Et dans la perspective d'un changement de pouvoir en 2017, ce serait quand même bien aussi de pouvoir se préparer au niveau européen. Et en plus, et dans cela, je suis un peu dubitatif de l'effet bénéfique des primaires. Jean-Louis Bollange vient de dire que ça aide le parti à se préparer, à discuter du programme, mais on assiste... C'est-à-dire
qu'on fait les bêtises avant.
Oui, on fait des bêtises avant, mais on assiste surtout à une surenchère aujourd'hui. Oui. On l'a vu au départ, quand Sarkozy était encore hors du débat avec le programme économique. Ça s'est arrêté aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit la même chose sur le plan sécuritaire, mais même sur le plan européen, c'est-à-dire Bruno Le Maire qui veut un référendum soi-disant pour rester dans l'Union européenne, mais c'est quand même un moyen très dangereux. Nicolas Sarkozy qui bon, il faut dire que sur ce point-là, il a une assez belle continuité qui veut casser complètement Schengen pour soi-disant établir un nouveau Schengen, mais en attendant. On fait rien, on arrête tout et on rétablit les frontières, d'après ce que j'ai compris de son discours. Donc, on assiste à une surenchère et j'en suis pas sûre que ça soit vraiment bénéfique pour les débats politiques.
François Bujon de l'Étang.
Le discours de Saint-André Lélille est intéressant à bien des égards. Alors, je veux tout de suite dire que la querelle sur le thème... du fait que Sarkozy est en campagne, mais qu'il n'est toujours pas candidat, me paraît une querelle assez vaine, d'abord parce qu'elle ne mènera nulle part, ensuite parce que elle est assez rituelle. Généralement, c'est avec des présidents de la République qui se représentent, d'ailleurs, que cette querelle arrive. Moi, je me souviens très bien, par exemple...
C'est un président de la République qui se représente.
Oui, mais si vous permettez, il y a eu un intervalle, quand même, entre les deux. Non, c'est un président de parti qui se présente. Et c'est là qu'est l'analogie avec des présidents de la République. Il abuse, comme on dirait dans le domaine économique, de sa position dominante, parce qu'elle lui confère des quantités d'avantages. Moi, je me souviens très bien de M. Mitterrand, en 1988, attendant les dernières extrémités pour se déclarer candidat. Tout le monde savait depuis des mois qu'il l'était. Monsieur Hollande, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est candidat à sa propre réélection, puisque tout son comportement le démontre. Mais il ne le dit pas. Donc je pense que c'est une querelle un peu vaine et qui ne mènera nulle part. Elle va peut-être durer jusqu'au mois d'août, puisqu'il a encore un délai. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il sort un peu du bois avec ce discours de Saint-André Lélille. On le compare à des discours antérieurs, notamment au discours de Nîmes de 2006. Il présente ça comme un hommage au peuple français, je le cite, entre guillemets. Il dénonce les idéologues de la gauche mondaine et de la pensée unique. Enfin voilà, ce discours est un discours intéressant par son ton et par la logique politique dans laquelle il se situe. Il choisit une tonalité qui est nationaliste, qui est identitaire, qui est sécuritaire. Il le fait de façon très très claire et très déterminée. Et ce faisant, il se distingue des autres. Nous allons y revenir dans un instant. Les racines chrétiennes, tout ça fait partie de ce discours qu'il entend certainement développer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que la ligne politique qu'il va suivre est la même, au fond, que celle qu'il avait suivie dans la campagne de 2012. C'est un peu, disons-là, pour simplifier, la thèse Buisson, si vous voulez. Il chasse sur les terres du Front National, il espère attirer vers sa candidature des électeurs qui soit sont au Front National, soit auraient la tentation d'y aller. Et on est donc, pour lui, dans la continuité parfaite avec 2012, me semble-t-il. Alors, ce qui est très intéressant, c'est l'effet que ça produit sur le peloton des autres candidats, parce que son positionnement se situe très très loin du brouhaha économique, comme on dit, du bruit de fond économique qui a été celui de toutes les candidatures précédentes, de Fillon à Juppé, en passant de façon un peu différente par Le Maire et par d'autres. Sarkozy semble avoir la conviction que ce n'est pas sur les sujets économiques que se jouera l'élection de 2017. Et qu'au fond, comme l'a dit un membre de son entourage, je ne sais plus qui, c'est pas sur le fait qu'il faut diminuer l'impôt sur les sociétés de 2 ou de 3% que les Français vont se déterminer. Ils vont se déterminer, pense M. Sarkozy, sur l'immigration, sur l'identité, sur la sécurité, tous ces thèmes qui ont toujours été des thèmes difficiles pour la gauche. Et il a cette conviction, vous l'avez rappelé, que la France n'a jamais été aussi à droite et qu'elle veut entendre des valeurs de droite. Donc pour lui, il s'agit de trouver un discours qui soit mobilisateur, d'une part, et qui soit rassurant pour un électorat qui est déboussolé. Il ne veut pas servir, contrairement à ses concurrents à droite, de potion économique à cet électorat. Alors ça, c'est intéressant parce que il se distingue des autres, ce faisant. Mais il faut dire aussi qu'il lutte sur de très très nombreux fronts, peut-être encore plus que les autres. Il lutte sur le front du Front National et de Marine Le Pen. Il lutte contre ses concurrents de droite qui quand même, il faut le rappeler, ont une nette avance sur lui dans tous les sondages, notamment Juppé. Il lutte bien entendu contre Hollande, le Parti socialiste et le gouvernement en place. Et il lutte aussi contre les revendications gauchistes ou contre le désordre de ces dernières semaines. Donc il ne pourra pas éviter les sujets économiques. D'ailleurs, il en a parlé sur le mode un peu plus mineur à Saint-André-les-Lilles, mais il ne peut pas les éviter. De même qu'il ne pourra pas éviter de dire quelque chose sur l'Europe. Pour l'instant, je suis sûr que Jean-Louis a réagi aussi. Il n'y a pas d'Europe dans le discours de Sarkozy.
Si, il y a une interview au Monde avec l'éloge de M. Orban qui n'est pas quand même une très bonne entrée dans l'enjeu européen.
Oui. Mais voilà, il occulte le discours européen. C'est-à-dire qu'il n'a pas de, de solution. Oui. Alors, loin de tout cela, les autres, pendant ce temps-là, poursuivent leur chemin. Le peloton de tête poursuit son chemin, Juppé, à son rythme.
Pardon, mais le peloton de tête, il y a quelques semaines, tout le monde s'accordait à dire que Sarkozy était loin derrière dans les sondages, ce qu'il est encore aujourd'hui. Officiel. Mais l'événement, depuis ce discours et même un peu avant, c'est que Sarkozy a décidé du terrain sur lequel va se faire la compétition de la primaire de droite, et qu'à partir de là, on peut se demander si tout ne s'inverse pas, s'il ne devient pas le favori de cette primaire de droite, et s'il devient le favori de cette primaire de droite, on voit bien tous les bouleversements qui s'en suivent pour l'élection
présidentielle, mais vous allez peut-être
la candidature de François Bayrou, etc.
Je comprends bien ce que vous dites, et je suis d'accord, ça peut se produire comme cela, mais ça peut aussi ne pas se produire. Et au fond, il est possible que les autres poursuivent benoîtement leur discours, proposent leurs programmes libéraux, et que Sarkozy n'arrive pas à déplacer véritablement. Nous allons voir.
Il a déjà déplacé. J'ai fait tout à l'heure l'inventaire de tout ce que les différents candidats s'étaient mis à déclarer sur les thèmes de Sarkozy.
Les thèmes ont changé. Mais Juppé avait dit.
François Fillon l'a fait. Alain Juppé l'a fait.
Juppé a publié son livre sur. Non, mais je ne veux pas. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce que vous dites, parce que j'ai dit ici même, il y a plusieurs semaines, que Sarkozy n'était pas mort et qu'on avait tout à fait tort de considérer qu'il était disqualifié pour les primaires. Donc, je ne me sens absolument pas surpris par cette résurgence de Sarkozy. Et je crois que les thèmes internationaux fondamentaux vont effectivement dans ce sens. J'ai toujours pensé personnellement... Excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, François. Je vous donne la parole dans un instant. Mais j'ai toujours pensé que le thème de l'autorité, qui est un thème, à mon avis, foutraque, parce qu'il n'a pas d'enjeu réel, était un thème fondamental pour l'électorat droite par rapport à celui du libéralisme économique.
Non, mais je reprends pour reprendre le fil de mon discours interrompu. Je suis d'accord avec Philippe pour dire que Sarkozy, en sortant du bois comme il le fait, impose un thème nouveau, choisit un terrain qui est son terrain, et que les autres ne peuvent pas évidemment éviter d'y venir tôt ou tard. Mais sa tentative pour essayer de changer le cours de la campagne, elle est en cours, mais le jury n'a pas encore rendu son verdict. Nous le verrons dans quelques semaines, parce que pendant ce temps-là, la surenchère économique, ou si vous voulez ce que beaucoup appellent la surenchère libérale, se poursuit à droite. Et puis alors, il sort des quantités de nouveaux candidats. La pléthore de candidats est tout à fait extraordinaire. On voit arriver M. Guénot, Mme Alliot-Marie se prépare, M. Miard est là, M. Geoffroy Didier. Bon, il y en a beaucoup dont on se demande pour qui ils roulent en réalité, car ce sont des candidats qui n'arriveront pas sur la ligne d'arrivée. Tout le monde le sait. Mais peut-être aussi roule-t-il pour quelqu'un avec l'intention de l'aider à ratisser le plus large possible.
Ce qui ne roule pas, tout simplement, dans l'idée de pouvoir être sous-secrétaire d'État, quelque chose aux victimes, ou enfin à l'un des secrétariats d'État qui a été récemment inventé, Thierry Pêche.
Oui, enfin, le darwinisme sera terrible et cruel, comme d'habitude. La sélection naturelle va se faire au moment de la collecte des signatures.
Ce que je veux dire, c'est que peut-être des encouragements de
quelqu'un qui arrive à la mer sont un peu nombreuses.
Compte tenu des règles qui ont été posées pour cette primaire, beaucoup de ceux que vous venez de citer ne verront probablement même pas la ligne de départ.
Bien sûr.
Moi, je voudrais vous soumettre une hypothèse, c'est que Sarkozy peut très bien perdre personnellement et gagner culturellement. Et ce n'est pas le meilleur des scénarios, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un fait qui n'a pas été évoqué ici, c'est qu'il traîne un nombre d'affaires judiciaires considérables qui vont probablement l'handicaper pour certaines d'entre elles. Bon. Par ailleurs, il est loin. Dans les sondages, dans l'opinion, il est vraiment très loin. Et enfin, il a un gros problème, c'est qu'il n'est plus du tout neuf. Tout ce qu'il dit aujourd'hui, il l'a déjà dit, et ceux qui étaient partisans de ces idées ont pu être déçus, puisqu'il en a finalement exécuté très peu en réalité, pour les raisons que Jean-Louis a dites, c'est-à-dire que la sécurité, etc., c'est d'abord un problème d'exécution. Et c'est pas en faisant des lois nouvelles que... Bon. Bref, Sarkozy peut très bien perdre, mais il peut très bien avoir durablement réorienté les thématiques de la campagne et de l'échange. Et ça, c'est pas le, c'est effectivement le pire qui puisse arriver. On me fait signe d'arrêter là, mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire.
Michel Aviguel,
oui, faire signe. L'argument du neuf, je l'ai aussi j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, mais le problème, c'est que le favori, Alain Juppé, n'a pas non plus pour lui ni François Fillon. Ils sentent malheureusement tous les deux aussi associés à quelque chose de déjà vu, et notamment pour les réformes libérales, il reste quand même une image d'Alain Juppé qui est probablement aujourd'hui un peu enfoui, mais qui va ressortir, c'est sûr, qu'on va se charger à ressortir les images de la grande grève de 95. Et donc, effectivement, je pense, Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Bollange l'a mentionné, nous, on a toujours dit, quand toute la presse française disait il est mort, attention, il a beaucoup de réserves et je crois qu'on est en train de voir ce retournement de situation.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, ce que je voudrais simplement dire, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que je voudrais simplement dire maintenant, c'est que, en réalité, ce que je crains à la faveur de cette remontée de Nicolas Sarkozy, c'est que la France n'en vienne à basculer, comme l'Angleterre aujourd'hui, comme les États-Unis aujourd'hui, dans l'irréel. Nous avons le Brexit, je suis désolé, c'est pas être pro ou anti-européen, c'est un truc idiot, d'un bout à l'autre. D'ailleurs, ça conduit les Anglais à dire qu'ils sont pour les Pakistanais et contre les Polonais, ce qui, en termes de lutte contre l'immigration, est quand même un peu singulier. Ce que dit Trump est complètement absurde, on y reviendra, je pense. Et là, nous basculons dans un domaine, l'identitaire, l'autoritaire, etc., où Sarkozy a échoué. Il est sur ce créneau depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Il a tout fait en matière de loi. Il a fait une loi par an sur tous les sujets. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est pas de sa faute, d'ailleurs, parce que c'est très, très difficile à régler. Et on a, en revanche, un vrai problème qui est de savoir comment cette société, la société française, peut retrouver la cohésion nécessaire pour faire des réformes sans déchirer son tissu social. Et là, si ce débat-là est écarté, je pense que c'est très mauvais pour la démocratie française.
Je vous propose que nous nous passions maintenant à ce qui s'est passé aux États-Unis cette semaine, c'est-à-dire à l'attentat d'Orlando. 7 jours après l'enquête pour terrorisme ouverte par le FBI, cet organisme policier continue à chercher les raisons qui ont conduit Omar Mateen, américain d'origine afghane de 29 ans, à se rendre dans un club gay d'Orlando, en Floride, et à y tuer 49 personnes, à en blesser 53 autres, avant d'être abattu. Si l'attentat a été immédiatement revendiqué par Daesh, les enquêteurs ne trouvent que peu de liens entre l'organisation État islamique et Omar Mateen. Cette incertitude pose la question des nouvelles formes de terrorisme, certains individus passant à l'acte au nom de Daesh mais sans véritable préparation, comme l'assassin d'un commandant de police et de sa femme mardi dans les Yvelines. À Orlando, l'attentat vise une autre cible de Daesh, la communauté lesbienne, gay, bi et trans, LGBT, persécutée dans les territoires occupés par Daesh et qui fait ici les frais de la fusillade de masse la plus meurtrière des États-Unis. Le même jour, on apprenait qu'un homme en possession de 3 fusils d'assaut avait été arrêté alors qu'il se rendait à la marche des fiertés de Los Angeles. Celle qui se déroulera à San Francisco dimanche prochain, l'une des plus fréquentées au monde, bénéficiera d'un service de sécurité renforcé. Les hommages et les rassemblements ont eu lieu dans de très nombreux pays qui ont insisté sur le caractère homophobe de l'attentat, à l'image du président Barack Obama qui s'est rendu jeudi à Orlando auprès des familles endeuillées. Donald Trump a rejeté la responsabilité de ses morts sur un prétendu laxisme des démocrates au pouvoir et exigé la démission du président qui n'a pas prononcé les mots d'islam radical. Hillary Clinton s'y est également refusée, préférant rappeler son programme dans lequel figure l'interdiction du port d'armes. Le quotidien Libération rapporte que selon les études menées par The Pew Research Center entre 1993 et 2000, le nombre d'homicides a presque diminué de moitié. En 2010, 11 078 meurtres avaient été commis par arme à feu contre 18 253 en 1993 et depuis, ce chiffre, quoique très élevé, est resté stable entre 11 et 12 000 par an sur la période 2010-2013. Un autre organisme, le Gun Violence Archive, note de son côté une augmentation ces 2 dernières années avec 12 575 homicides en 2014 et 13 338 en 2015. Quant au monde, il relève que, selon le Violence Policy Center, le taux de détention d'armes à feu par foyer est en baisse,
Ce pourcentage est passé de 49,1% en 1973 à 32,3% des ménages américains en 2010. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Eh bien, hélas, nous avons à faire face à un nouvel épisode affreux dans l'histoire du terrorisme, bien sûr, dans l'histoire des États-Unis aussi. Et c'est un épisode qui n'est pas facile à analyser parce que il présente beaucoup de facettes, beaucoup de dimensions différentes. Il nous renvoie à nos faiblesses et à notre vulnérabilité face au terrorisme. Ça, c'est vraiment la première chose qui frappe. Il y a d'abord la dimension terroriste, si vous voulez. C'est-à-dire le lien entre des personnages comme Omar Mateen et Daesh. Il se revendique de Daesh, puisqu'il a pris la peine de téléphoner au 9-11 avant de commettre son acte, et que ensuite Daesh a immédiatement utilisé l'épisode pour le présenter comme un soldat de l'islam. Mais en réalité, ce ne sont pas des actes prémédités, ce ne sont pas des actes organisés depuis l'étranger. En ce sens, l'affaire d'Omar Mateen, comme l'affaire de San Bernardino d'ailleurs un peu plus tôt, ne prouve pas grand-chose sur le plan de l'organisation du terrorisme et de ses liens avec l'organisation centrale, si on peut l'appeler comme ça, de Daesh. Donc ce n'est pas simple, c'est un acte individuel. Pour autant, la notion de loup solitaire ne veut pas dire grand-chose lorsque le loup solitaire se réclame de quelqu'un et que ce quelqu'un le reconnaît. Donc l'analyse est difficile. Surtout, c'est encore une fois un terroriste, comme certains des nôtres, hélas, qui est né sur le sol national, qui n'est pas venu de l'étranger, qui a été radicalisé domestiquement, si j'ose dire, par Internet, dit le FBI et dit le président Obama. Et cet acte est inquiétant dans la mesure où on ne voit pas pourquoi il n'y en aurait pas comme cela à l'avenir beaucoup d'autres finalement. Et pour les Américains qui, après 9-11, s'étaient lancés dans la paranoïa sécuritaire et commençaient à se mieux sentir, il y a maintenant une succession d'actes terroristes qui leur redonnent une profonde inquiétude. Il y a eu le marathon de Boston, il y a eu San Bernardino, aujourd'hui il y a Orlando. Donc cette dimension terroriste est très, très forte et ne peut qu'interpeller les Américains. Il y a une dimension homophobe, vous l'avez dit, ça c'est une autre dimension, qui n'a pas été immédiatement mise en exergue d'ailleurs dans les premiers commentaires, au point que la communauté homosexuelle a même dit qu'on avait voulu gommer cet aspect-là des choses, ce qui n'est probablement pas justifié. Mais c'est encore une fois un attentat très ciblé. Alors d'autres l'étaient. L'attentat du Bataclan était ciblé contre la jeunesse multiculturaliste, comme dirait Thierry.
Non, multiculturel.
Bon. Multiculturel, multiculturel, d'accord. J'accepte l'amendement. L'hypercacher était ciblé contre la communauté juive, les attentats contre les policiers ciblés contre les policiers, celui-là ciblé contre la communauté homosexuelle. Ça, c'est une novation et elle est évidemment en harmonie avec le prêche de Daesh qui est homophobe. Il y a une dimension politique qui est une troisième dimension différente, c'est-à-dire quel usage la communauté politique américaine va-t-elle faire de tout cela ? Quelle influence ceci va-t-elle avoir sur la campagne ? Alors, la tarte à la crème, excusez-moi, mais qu'on entend dans tous les commentaires pour l'instant, c'est de dire c'est un tournant dans la campagne des primaires. Alors d'abord, la campagne des primaires est terminée, puisque les primaires sont terminées, on va entrer dans la campagne avec un C majuscule, mais ensuite c'est pas du tout un tournant, parce qu'en réalité tous les thèmes que remuent cet attentat était déjà présent dans la campagne. Le thème sécuritaire est très présent. Le thème de l'islam, avec l'interdiction, les rodomontades de Trump voulant interdire l'immigration des musulmans, était déjà dans la campagne. Et même le thème homosexuel est un thème déjà présent dans la campagne. Donc c'est tout sauf un tournant.
Michael Avigal.
Oui, tout à fait. Juste pour soutenir la thèse de François sur le fait que c'était pas un tournant, j'aimerais rappeler en mars 2012, quand Mohamed Ra, quand il y avait l'affaire Mohamed Merah, logiquement, ça aurait dû garantir une victoire à Nicolas Sarkozy, puisque c'était lui l'incarnation de l'ordre, de la sécurité, et ça n'a pas du tout été le cas. Donc on peut pas dire que cette affaire et va avoir une influence majeure sur la suite de la campagne. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que ça met en exergue les lignes de division. puisque justement, je pense que c'était un discours très bienvenu de Barack Obama, il a montré que tout ce que Donald Trump proposait, c'est-à-dire de ne pas laisser entrer des musulmans et même discriminer ceux qui sont déjà sur le territoire, n'aurait pas eu de prise sur cet homme, puisqu'il était américain, et donc un renforcement de la législation contre l'immigration n'aurait absolument pas évité ce drame. Alors sur l'aspect homophobe, effectivement, ce que j'ai constaté avec effroi, c'est que tous les forces populistes en Europe, le Front National comme l'AFD, avaient complètement minimisé cette dimension-là et avaient exprimé effectivement leur effroi face au terrorisme. Et j'ai l'impression que là, en l'occurrence, le drame d'Orlando nous aide quand même aussi de voir les incohérences de ces forces vis-à-vis des questions fondamentales comme l'homophobie. Parce que justement, le Front National, pour prendre l'exemple le plus pertinent, je crois, n'a pas vraiment trouver des moyens de mettre en cohérence son positionnement là-dessus. Et je trouve d'ailleurs assez intéressant que aujourd'hui en ressort justement tout ce que dans l'islam est au contraire pour une grande tolérance de, je sais pas comment entendre dire, de la liberté sexuelle, c'est-à-dire la philosophie de Daesh n'est absolument pas, on peut trouver des fondements dans l'islam, mais c'est absolument pas couvert par l'islam. Et ça, c'est intéressant aussi quand on entre un peu plus dans un débat sur l'islam lui-même.
Thierry Pêche.
Beaucoup de choses ont été dites, je n'ai pas grand-chose à ajouter à vrai dire, parce que je suis assez d'accord. Je voudrais insister sur le fait que c'est un massacre homophobe. Il faut appeler les choses par leur nom. Et Michaela a raison de souligner que certains ont simplement oublié, ont vu le terrorisme, ont vu Daesh, mais d'autres étaient embarrassés par cette dimension. Et je crois notamment les forces d'extrême droite en France et sans doute ailleurs sont très embarrassées. Parce qu'au fond, leur public connaît l'homophobie, leur électorat est parfois homophobe lui-même. Bon, et donc ils ont du mal. Et en même temps, ce qui s'est passé à Orlando, bien sûr, doit faire l'objet d'une condamnation sans faille. Donc ça souligne une ambiguïté qui devrait être levée. Bon, ensuite, il y a le débat quand même sur la circulation des armes dans la société américaine, qui est le vrai débat à mon avis, parce qu'en fait le lien avec Daesh il est probablement un peu évanescent, un peu gazeux. On n'est pas bien sûr qu'il y ait un enchâssement réel de ce personnage dans les stratégies de Daesh. C'est plutôt une franchise, comme on l'avait vécu autrefois avec Al-Qaïda, qui est acheté à peu de frais pour donner une couleur, une résonance à un acte atroce. Bon, donc je crois que le vrai débat, c'est le débat sur le port d'armes, qui n'arrive pas à avancer d'une certaine manière aux États-Unis, même si les chiffres que vous avez cités, Philippe, montrent un certain recul de détention des armes dans les ménages américains. Vous avez cité des chiffres qui sont très parlants. En même temps, un tiers des ménages qui possèdent encore une arme à feu, ça fait beaucoup. Imaginez qu'en France, 20 millions de Français, c'est pas un tiers de 60 millions, mais enfin, un tiers des ménages possèdent une arme à feu, ça fait beaucoup de monde. Ça fait longtemps que Barack Obama croise le fer sur cette question avec la droite américaine, mais ça fait longtemps que la droite américaine résiste et résiste efficacement. Trump s'est quand même permis de dire que s'il est victime du Pulse à Orlando avait possédé une arme, il y aurait eu moins de morts. S'il faut sortir, faire la fête, armé d'une arme à feu, il y a vraiment une divergence de civilisation.
François ?
Oui, si sur ce tout dernier point, Thierry, très précisément, c'est très intéressant parce que Trump avait d'abord dit en défendant la liberté de vente des armes à feu, que si au Bataclan et en France, oui, les gens étaient armés au lieu qu'ils aient une interdiction, ils auraient pu se défendre. Et voilà que dans un attentat similaire, c'est-à-dire un massacre dans un endroit clos, aux États-Unis, ils ne le peuvent pas plus qu'au Bataclan. Donc ça prouve bien que le vrai débat sur cette affaire n'est pas celui de la liberté de vente des armes à feu. C'est un autre débat.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je voudrais reprendre l'interrogation posée par François, à savoir est-ce que c'est un tournant ou pas dans la campagne. Je suis évidemment incapable de répondre à cette question. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il me semble que c'est un double embarras. C'est un embarras évident pour les démocrates, parce que toute pulsion sécuritaire et toute mise en cause de l'islam est un appel à des comportements qu'ils ont de droite profonde. Après tout, le 11 septembre a provoqué l'intervention américaine en Irak, qui était une totale absurdité, puisqu'il était évident que Saddam Hussein n'était ni de près ni de loin lié à Al-Qaïda, que ça n'avait absolument rien à voir. Et malgré tout, ils se sont lancés là-dedans, et ceux qui, comme nous, ont marqué de l'opposition à tout ça, ont été véritablement jetés au banc de la société. Ça a été quand même affreux. Donc il y a eu une espèce de réaction type sorcière de Salem, une réaction religieuse. Et ça, c'est évident que la demande sécuritaire va être très forte. Et donc, Obama, Hillary Clinton, etc., sont un tout petit peu embarrassés par un discours qui est nécessairement un discours de raison, un discours de mesure, un discours intelligent, alors qu'on a besoin de passion, etc. Mais les Républicains ne sont pas moins embarrassés. Il me semble que, d'abord, le fait que ce soit la communauté homosexuelle qui ait été visée, c'est quand même que les fondamentalistes durs du Parti républicain sont quand même des gens qui considèrent que le sida est un châtiment de Dieu, qui sanctionne le... Alors là, ils n'arrivent pas à dire que c'est un châtiment de Dieu, parce que c'est pas leur Dieu, c'est Allah, Akbar, ça ne va pas du tout. Et donc, ils sont quand même assez embarrassés, assez déchirés, parce que les victimes, ils n'ont aucune compassion pour elles, et enfin, je ne parle pas de l'électorat républicain dans son ensemble, je parle évidemment de l'extrémisme républicain, mais enfin, qui est quand même assez important. Deuxièmement, sur l'islam, les positions qui sont prises, alors là aussi, c'est un peu ambigu, parce que les positions qui sont prises par Trump sont totalement absurdes, et ne peuvent pas ne pas apparaître comme absurdes. Quand il dit qu'il faut interdire l'accès au sol américain, l'entrée sur le sol américain des musulmans, alors même que le personnage, l'auteur des crimes en question, est né aux États-Unis, n'a pas du tout accédé à ça, et qu'on va pas interdire aux fidèles de la plus grande religion, une des plus grandes religions du monde, de rentrer aux États-Unis. C'est évidemment totalement absurde. Et troisièmement, sur le lobby des armes, on voit bien, et d'ailleurs, Trump et le lobby favorable aux armes sont en train de réagir de façon assez fine politiquement, en disant, parce qu'il y a quand même un croisement entre deux choses, c'est une arme qui n'est pas n'importe quelle arme, un fusil d'assaut qui a des possibilités meurtrières absolument incroyables, et qui a été donné à quelqu'un qui était quand même objectivement ce qui devait être sur la liste des suspects. Donc on a là, en termes de sécurité, on a une espèce de pression contradictoire. Un, il faut stigmatiser les suspects, qu'on voit en France d'ailleurs, la liste, les fichiers S, etc. Et puis deuxièmement, il faut libéraliser les armes. Et on voit bien que là, il y a une espèce de discours actuellement qui s'organise entre Trump et le lobby d'armement, disant on est prêt à interdire la vente de type d'armes à des gens qui sont dans une situation de suspicion. Donc je crois que ce qui est en cause, là encore, comme en France, comme au Royaume-Uni, c'est la capacité des prochaines élections à faire passer dans le débat un minimum de rationalité, et c'est pas gagné.
François Bujon de l'État.
Et oui, Jean-Louis a tout à fait raison là-dessus. Trois toutes petites remarques avant de conclure là-dessus. La première, c'est que je pour ma part, la conviction profonde, comme je l'ai dit, que ce n'est pas un tournant dans la campagne, mais il va de soi que ça alimente le lance-flamme de M. Trump. Ça, c'est évident. Mais ça va peut-être aussi le desservir, parce que ses excès même, finalement, vont peut-être le desservir et permettre au débat rationnel qu'appelle Jean-Louis de ses voeux de se produire. Deuxième remarque, en écho à ce qu'a dit Thierry, c'est que le Parti républicain fait partie de ceux qui sont les plus embarrassés par cet épisode. Parce qu'il y a, dans toute une frange du Parti républicain, la plus conservatrice, la plus religieuse à droite, il y a une homophobie rampante qui, évidemment, est, si j'ose dire, prise en flagrant délit par ce terrible épisode. Et puis la troisième chose, pour clarifier l'histoire du port d'armes, à mon avis, le débat sur la libre circulation des armes aux États-Unis est un vrai débat. C'est un débat en soi, je ne le nie pas du tout. Il est très très important. Et il est consternant d'ailleurs que le président des États-Unis, Mme Clinton, etc., n'arrive pas à prévaloir sur un congrès beaucoup plus sensible aux arguments de la NRA, le National Rifle Association. Je crains qu'ils n'y parviennent pas. Mais c'est un débat qui ne doit pas avoir d'interférence avec le débat sur le terrorisme, qui est un autre débat en soi. Et je pense que les lier tous les deux, comme l'ont fait certains, est abusif et surtout ne permet pas d'éclairer les termes ni de l'un ni de l'autre.
Je vous remercie. Je vous propose que nous passions maintenant à notre dernière séquence, la séquence des brèves que je vais ouvrir. Je viens de parler de l'homophobie. Il faut se souvenir qu'en 1981, en France, l'homosexualité était à la fois une maladie et un délit. On peut donc penser d'une certaine manière que beaucoup de choses ont avancé. Et en même temps, on peut aussi se dire que ce qui n'a pas avancé ou moins avancé, c'est la vision de la chose dans les esprits et dans les cœurs, si je puis dire, qui fait que un fait est définitivement admis, et pas seulement dans les textes. Je le dis parce que je voudrais recommander un film qui sort en DVD, un film de Philippe Condroyer de 1974, La coupe à 10 francs. C'est cette histoire réelle d'un garçon qui s'était immolé par le feu parce qu'on l'avait forcé à se couper les cheveux dans une usine quelque part dans l'est de la France. Le tableau que ce film de Philippe Condroyer donne de ce qu'a été le rapport de hiérarchie à l'intérieur des usines, et notamment dans les endroits un peu éloignés des grands centres, est absolument saisissant. Et nous qui sommes jeunes depuis assez longtemps pour avoir connu cette situation-là, nous pouvons voir à quel point il permet de se rendre compte de ce qui reste, ce qu'a pu être le rapport entre les patrons, la maîtrise et les ouvriers. Le film est remarquable et Didier Sauvegain, qui en est le héros, est un acteur tout à fait excellent. Thierry Pêche.
Eh bien, moi, je voudrais vous recommander un album de Jean-Marc Foltz et Stéphane Oliva, Gershwin. Je regarde François Bujon parce que je sais qu'il est amateur. C'est chez Vision Fugitive. Ah, mais arrêtez.
On n'a pas entendu ce que Jean-Luc Bourlange a dit. Ce qui fait, Jean-Luc, dites la méchanceté que vous avez.
C'est vrai que nous ne le sommes pas, mais il y a manifestement un axe dans cette émission entre Thierry et François qui laisse les autres participants sur leur fin.
Écoutez, Jean-Louis, c'est aussi pour vous. Je suis sûr que vous allez vous sentir concerné. Donc Jean-Marc Foltz est clarinettiste et producteur, et Stéphane Oliva, pianiste.
Ah, les femmes vont pas commencer à s'y mettre là.
Bon, je voudrais vraiment recommander cet album. Il m'a été recommandé moi-même hier. Je l'ai écouté cette nuit et il m'a paru tellement beau que je voulais en faire la publicité. C'est un album en nuances, en suspension, en bruissement. Vous y entendrez des musiques connues, mais justement, l'art du jazz et des grands jazzmen, c'est aussi de révéler l'étrange altérité du monde connu.
François Bujon de l'Étang.
Plus prosaïquement, mais je reviens à la géopolitique, et je voudrais recommander un livre publié chez Fayard il y a 2 mois à peu près, de Serge Mikhailov, qui s'intitule « Africanistan » et qui porte le sous-titre inquiétant « L'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ?» Serge Mikhailov est un grand spécialiste du développement. Il est un ancien directeur à la Banque mondiale pendant de très très longues années, qui a également exercé des responsabilités importantes à l'Agence française de développement. Et son livre a un double mérite. Le premier, c'est qu'il va un peu à l'encontre de tout ce discours angélique que l'on entend souvent sur le thème de l'Afrique, réservoir de croissance, l'Afrique, success story, inaperçue. Dieu sait que nous entendons souvent entonner cet hymne. Il rappelle, au contraire, qu'il y a beaucoup de zones en Afrique qui sont des zones au contraire d'états faillis, de massacres, de catastrophes diverses et variées, et que le tableau est infiniment plus nuancé que ce discours évangélique là. Et puis le deuxième mérite, c'est qu'il attire particulièrement l'attention sur le Sahel. C'est un livre en forme de zoom qui zoome sur le Sahel. Le Sahel est une bombe démographique épouvantable, et le Sahel est une zone d'infiltration terroriste terrible, d'où le risque, dit-il, de voir arriver un Afghanistan à nos portes. Ce risque a voulu conjurer l'opération Serval.
À propos de l'Afrique, nous recevrons pour les thématiques de cet été Lionel Zinsou, qui a été candidat à la présidence de la République du Bénin, dont nos auditeurs savent qu'il a participé à plusieurs reprises à l'Esprit public, et ce sera sans doute une occasion aussi de parler non seulement du Bénin, mais de l'ensemble de la situation africaine. Michaela Vigue.
Oui, de retour en France, j'ai découvert un peu sur le tard le livre de Jean-Christophe Bailly, Le dépaysement, voyage en France, et je le recommande vraiment vivement pour ceux qui, comme moi, l'avaient pas découvert au moment de sa sortie. Je me permets de citer juste une phrase rapidement. Mon idée fut que pour m'approcher de la pelote de signes enchevêtrés, mais souvent divergents, formés par la géographie et l'histoire, par les paysages et les gens, le plus simple était d'aller voir sur place, autrement de visiter ou de revisiter le pays. C'est ce qu'il fait avec beaucoup de grâce, avec une très belle plume. Et j'ai découvert aussi qu'il est beaucoup inspiré par le romantisme allemand. Donc j'ai compris pourquoi ces portraits de la France que nous aimons tous sont pour moi une vraie découverte.
Jean-Louis Bourlange, inspiré par le romantisme allemand aussi.
Je voudrais citer et recommander le livre de Monique Dagneau, « Le modèle californien, comment l'esprit collaboratif change le monde », paru chez Odile Jacob. Alors, ce livre est tout à fait fascinant, et ce qui est plus fascinant encore, c'est que la problématique que développe Monique Dagneau n'est absolument pas présente, en réalité, dans le débat politique actuel. Que nous dit Monique Dagneau? Elle nous dit essentiellement qu'il y a la rencontre, le modèle californien, c'est la rencontre entre une région, la Californie, une technologie, une technique de l'information qui est bien connue, et troisièmement un outil financier qui est le capital risque. Et ceci se développe une idéologie qui est une idéologie en trois points: la liberté free, une liberté free, la liberté de parler, de tout dire, le partage général de l'information, et troisièmement le partage gratuit de l'information. Et elle montre l'effet totalement révolutionnaire de ce libéralo-libertarisme informatique, et elle ne dissimule pas, même si elle l'égrène au cours de son livre, toutes les contradictions dont ce modèle est porteur. Contradictions entre la réciprocité et la domination, entre la gratuité et l'inégalité, entre l'autonomie de la personnalité fortement affirmée et le grégarisme que tout cela suppose, entre, elle le dit pas comme ça, hein, mais c'est ça qui apparaît dans son livre, entre la solidarité et l'égoïsme, entre la gratuité et l'avidité, entre la libération absolue des États et en même temps un pouvoir qui est inévitable des opérateurs. Donc on a donc tout un modèle politique qui est fondamentalement anarchiste dans son principe, mais qui ne peut pas s'arrêter à quelque chose d'anarchiste, et dont on mesure que l'effet révolutionnaire, justement, n'est pas du tout maîtrisé dans ses effets. Et là, c'est un des nombreux grands défis que les classes politiques, et notamment le personnel politique français, se semblent absolument incapables de prendre en compte dans toutes ces dimensions.
Merci, nos auditeurs le savent, la référence de toutes les recommandations que nous venons de faire se trouve sur le site. Vous avez maintenant rendez-vous, le site de l'émission, vous avez rendez-vous avec Alain Kruger pour On ne parle pas la bouche pleine. Il va être question avec Jean-Paul Curnier, qui est un philosophe et un écrivain, un arlésien par-dessus le marché, si je puis dire. Il va être question des rapports entre les Beatles et les...
Pardon ? Un arlésien qui arrive.
Un arlésien qui, lui, oui, qui existe, qu'on peut voir et en tout cas entendre. Et il va être question des rapports entre les Beatles et, je ne dirais pas la gastronomie, mais enfin, si, peut-être aussi, les friandises et toute cette sorte de choses. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Adrien Nazelli, Anne-Sophie Pierry et Chloé Bousquet, avec aujourd'hui à la technique Pierre Monteil. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit public.